Il est 19h sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, on reprend nos débats dans Punchline. Mais tout de suite, c'est le journal avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence.
À quand le retour à la vie normale? Nous n'en sommes plus très loin. Laisse entendre Jean Castex, le Premier ministre prudent, parle d'une quatrième vague de Covid désormais sous contrôle.
Une marche blanche à Marseille en hommage aux victimes de règlements de compte liés au trafic de drogue. Un appel contre la violence également à la veille de la visite très attendue d'Emmanuel Macron.
Joe Biden sous le feu du camp républicain après le retrait d'Afghanistan. Le président américain va se justifier ce soir dans un discours, tandis que les 27 de l'Union européenne veulent éviter à tout prix un afflux de réfugiés afghans.
Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions à quelques heures de la clôture du mercato. L'attaquant du PSG ce soir à l'entraînement des Bleus à Strasbourg, à la veille de France-Bosnie. La tendance météo, Marlène Duray.
Et ça sera la journée la plus sympa de la semaine. Demain, après que les brouillards et les grisailles se dissipent, évidemment, il y en aura moins qu'aujourd'hui. La météo complète à la fin du journal. Europe 1.
Pour Jean Castex, la France est donc sur le bon chemin pour revenir à la vie normale, la vie d'avant le Covid.
Le Premier ministre reste prudent. C'est vrai qu'on s'est souvent vu promettre la lumière au bout du tunnel. Alors qu'il visitait un centre de vaccination mobile à Ilkirch, près de Strasbourg, Jean Castex a tout de même voulu adresser des signes d'espoir.
On veut retrouver une vie normale, d'accord? Quand on n'est pas loin, j'espère. Voilà. Moi, je considère que...
Il y a encore du travail.
Bon, on voit que cette quatrième vague, on va parler avec prudence, est maîtrisée, on va dire, à ce stade, contrôlée. Nous préparons les rentrées, je dis les, scolaires, universitaires, les vaccinations, etc. Donc, nous devons rester mobilisés.
Restons mobilisés, le retour à la vie normale n'est peut-être plus très loin. 65% de la population française vaccinée, on est encore loin toutefois de l'immunité collective. Louis Dragnel, alors pourquoi Jean Castex tient-il ses propos maintenant?
Eh bien en fait, le gouvernement veut vraiment y croire, se dire que ça y est, l'épidémie est derrière nous. Mais Jean Castex fait aussi, vous avez bien remarqué, très attention à ne pas reproduire les erreurs du passé, être trop optimiste ou trop négatif, car il le sait, le virus peut muter et résister. L'exécutif est donc sur une ligne de crête, mais essaye de donner des signes d'espoir pour montrer que les efforts ont payé. Un conseiller du Premier ministre met en avant les indicateurs épidémiologiques et les admissions en réanimation qui baissent. En clair, même si le gouvernement semble avoir enterré l'idée d'atteindre l'immunité collective en passant par la vaccination obligatoire, il continue de pousser à se faire vacciner très largement. D'ailleurs, on approche de l'objectif des 50 millions de premières doses, un objectif que s'était fixé Emmanuel Macron pour la fin de l'été. Donc pour résumer, au gouvernement, on se dit que ça y est, on a passé les pics, on va vers de meilleures perspectives. De manière très concrète, un premier marqueur d'optimisme a été posé après l'annonce par Bruno Le Maire de la fin prochaine du quoi qu'il en coûte. Et puis cette prévision de croissance, plus 6% en 2021 après moins 8% en 2020. Et donc tout ça donne envie au gouvernement d'y croire.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe. Il reste en France moins de 10 millions de personnes à vacciner. Parmi elles, le ministère de la Santé dit porter une attention particulière aux 600 000 personnes de plus de 80 ans qui n'ont donc encore reçu aucune dose de vaccin. Et puis, à l'échelle européenne, 70% des adultes sont entièrement vaccinés. C'était précisément l'objectif visé par Bruxelles avant la fin de l'été.
Et puis Alexandre, les centres commerciaux demandent la suspension du fameux pass sanitaire.
Ils reprochent au pass sanitaire de semer la confusion dans l'esprit des Français et de faire baisser la fréquentation. Gontran Turing est le délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Il s'alarme de ce que les clients désertent les enseignes.
Nous sommes à moins 25%, donc un quart de fréquentation qui a disparu en moyenne. On a demandé aujourd'hui solennellement au gouvernement de suspendre cette mesure pendant au moins la période de rentrée scolaire, qui est une période importante pour l'activité des centres commerciaux et qui plus est, qui est importante pour les ménages les moins favorisés, nos concitoyens qui ont besoin de faire leurs achats pour leurs enfants, notamment de rentrée scolaire dans les centres commerciaux. Mais on espère qu'on sera entendu, d'autant plus qu'on rappelle sans cesse que cette mesure est discriminante puisqu'elle ne s'applique pas aux autres formes de commerce et que par ailleurs, les centres commerciaux sont toujours soumis à un protocole sanitaire très strict qui fait qu'aucun cluster n'a jamais été constaté dans un centre commercial depuis le début de la crise.
Gontran Turing, le délégué général du Conseil des centres commerciaux, qui sera l'invité ce soir de l'interview Écho à 22h20 avec Emmanuel Duteil. Après les Yvelines et l'Essonne, la justice a suspendu le contrôle obligatoire du pass dans les centres commerciaux de deux autres départements, les Hauts-de-Seine et le Bas-Rhin, au motif qu'il empêche un accès égal aux biens de première nécessité. La hausse des prix à la consommation s'est fortement accélérée au mois d'août, plus 1,9% sur un an, en particulier dans les secteurs de l'alimentation et des produits manufacturés, relève l'INSEE.
Une marche blanche ce soir à Marseille contre les règlements de compte à la veille d'une visite de 3 jours du président Emmanuel Macron.
Marche blanche en plein cœur de Marseille au départ du Vieux-Port, un hommage aux victimes et un appel contre la violence liée au trafic de drogue. Alors que le chef de l'État débute demain une visite de 3 jours, Emmanuel Macron va annoncer un plan à plusieurs milliards d'euros pour redresser la deuxième ville de France. Stéphane Burgat, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Marseille. Stéphane, vous vous trouvez au départ de la marche.
Oui, le cortège se dirige vers la préfecture, l'occasion de mettre un coup de pression à moins de 24 heures de l'arrivée du chef de l'État, selon Amine Kessissi, l'organisateur de cette marche blanche.
C'est un très très grand signal de détresse et un signal où en fait on veut lui dire maintenant stop, il faut arrêter de venir avec des plans qui nous viennent de Paris, des plans qui nous viennent de 3000 km d'ici. Le plan banlieue, on sait tout ce que ça a donné. Le plan anti-drogue, on sait tout ce que ça a donné. Au contraire, avec tous ces plans, la situation est devenue de plus en plus dramatique et de plus en plus grave.
Ce jeune homme a récemment perdu son frère dans un règlement de compte et il n'est pas le seul ici à être endeuillé. Et la prière de tous ces Marseillais, c'est que cette spirale de violence prenne fin, même si certains, comme Baya, une mère de famille endeuillée, n'attendent rien du président Macron.
Je l'ai déjà crié une fois quand ils ont tué mon fils, arrêtez ce massacre, arrêtez. Eh ben, je le redis encore là, faudrait que ça s'arrête. Alors tous les gens qui peuvent faire quelque chose, s'il vous plaît, le président de la République, parce que demain il vient Macron, mais il vient que pour montrer sa tranche, et après il va se tailler, il s'en fout de nos vies.
Les 15 personnes au total ont été tuées cette année dans ces règlements de compte. Le maire de Marseille a publiquement réclamé la création d'un parquet spécial et l'arrivée de 900 renforts de police supplémentaires.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1 et cette mise en garde de Gérald Darmanin sur Twitter. Aucune zone de non-droit sur le territoire de la République, à Marseille comme ailleurs. Le ministre de l'Intérieur ajoute avoir ordonné une importante opération anti-drogue aujourd'hui à la cité des Flamands, à Marseille donc.
Restez avec nous dans un instant. Joe Biden en posture délicate après le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Le président américain prononce ce soir un discours. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve sur Europe 1 pour le journal avec Alexandre Lemaire. Joe Biden doit prononcer ce soir un discours très attendu après le retrait des troupes américaines d'Afghanistan.
20 ans de guerre en Afghanistan, un départ finalement avancé de 24 heures et Joe Biden face à sa première crise majeure depuis son élection. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Joe Biden très critiqué par les Républicains qui va tenter de sortir de cette passe la tête haute.
Oui, l'exercice s'annonce déjà périlleux pour Joe Biden après la débâcle militaire et le chaos de ces deux dernières semaines. Alors, on peut s'attendre à ce que le président mette l'accent sur le succès de l'opération d'évacuation. Plus de 120 000 personnes évacuées en 17 jours. Objectif, reprendre le contrôle sur le récit médiatique. Mais Joe Biden ne pourra pas échapper à la réalité du terrain. Le Pentagone a reconnu n'avoir pas pu évacuer tous ceux qui voulaient partir. Il reste 100 à 200 Américains en Afghanistan, beaucoup plus en ce qui concerne les alliés afghans des États-Unis. Le président américain devrait également rappeler qu'il n'y avait pas d'autre choix que de quitter l'Afghanistan en respectant la date butoir du 31 août. Il avait promis ce retrait, il l'a mené à bien. À plusieurs reprises ces dernières semaines, Joe Biden a déclaré qu'il...
Ah, on a perdu Alexis Guilleux. Plus de liaison avec Alexis Guilleux qui est... Alexis Guilleux n'est plus avec nous. Alexis Guilleux, donc à l'approche de ce discours très attendu ce soir du président Joe Biden qui va justifier le retrait des troupes américaines d'Afghanistan 24 heures donc après ce retrait de l'aéroport de Kaboul.
On y reviendra un peu plus tard dans Punchline. Et puis l'Union européenne veut éviter un afflux incontrôlé de migrants en provenance d'Afghanistan.
Les ministres de l'Intérieur des 27 ont échangé sur cette question aujourd'hui à Bruxelles. Un point d'accord au moins. Personne ne veut revivre la vague migratoire qui avait suivi la guerre en Syrie. Pas question pour les 27 de s'engager sur un nombre de réfugiés à accueillir. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Européens à Bruxelles. Isabelle, les réfugiés doivent rester dans la région de l'Afghanistan, c'est la position des 27.
Oui, c'est sans ambiguïté la position affichée par les Européens. De la France à la Hongrie, tout le monde défendait la même ligne, raconte un participant. Le ministre luxembourgeois, qui voulait mettre l'accent sur l'accueil des réfugiés en Europe, s'est retrouvé très isolé autour de la table. La majorité des réfugiés afghans sont aujourd'hui en Iran ou au Pakistan. L'objectif, c'est donc qu'ils restent là-bas. Dans des conditions dignes, précise quand même la déclaration qui a été adoptée ce soir par les ministres, les Européens envisagent des accords comme ceux qu'ils ont conclus avec la Turquie après la vague migratoire de 2015. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le modèle syrien-turc a été un bon modèle pour ceux qui ont été des réfugiés. Nous devons discuter et c'est effectivement ce que demandera la France. Il y a désormais un fonds de 80 milliards d'euros européens dont 10% seront totalement utilisés pour aider les pays qui connaissent cette immigration. Et bien, je compte bien également que nous utilisions cet argent.
L'idée avec ce message martelé, c'est officiellement de décourager la mise en place de filières de migration irrégulière vers l'Europe. Argument qui a aussi été invoqué pour ne pas afficher aujourd'hui des objectifs chiffrés pour l'éventuel accueil d'Afghans vulnérables dans l'Union européenne.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
Et puis c'est une autre conséquence du Covid, un peu plus légère pour une fois Alexandre, les cartes routières, les cartes de randonnée en papier se sont arrachées cet été.
Et oui, l'appel de la nature a été le plus fort après les confinements en répétition avec cet effet positif donc sur les ventes de cartes dépliantes en papier, plus fiables qu'un smartphone, c'est vrai, au milieu de nulle part. Les célèbres cartes IGN de l'Institut Géographique National en ont profité. Nathalie Elchaninoff est la directrice adjointe des programmes à l'IGN.
On a vendu 25% de plus de cartes de randonnée par rapport à 2019. Et c'est historique. Bon, historiquement aussi, l'IGN est leader sur la partie cartes de randonnée. Mais il y a un vrai intérêt. Et puis bon, forcément, il y a les vacances en France. Il y a le fractionnement aussi des congés qui fait qu'on part à des endroits différents. On achète la carte des endroits d'endroits différents. Et aussi s'adapter à des nouvelles pratiques. Par exemple, c'est assez récemment qu'ont été introduits dans les cartes pour du tourisme à vélo et à vélo électrique, par exemple dans les Alpes, la connaissance de bornes de recharge de vélo électrique.
Nathalie Elchaninoff avec Emmanuel Duteil.
Et puis, à quelques heures de la fin du mercato, tous les yeux sont rivés sur Kylian Mbappé, alors que les Bleus font leur rentrée.
L'attaquant ne laisse rien filtrer sur ses intentions. Il est ce soir à l'entraînement à Strasbourg, où l'équipe de France prépare son match de qualification au Mondial demain contre la Bosnie. Cyril de la Morinerie, vous suivez les Bleus au stade de la Méno. Cyril, on parle beaucoup de Kylian Mbappé et de son avenir.
Ah oui, il y a beaucoup de photographes qui sont là pour voir et surveiller ses moindres faits et gestes. Il y a eu un petit suspense. On s'est demandé si Kylian Mbappé allait bien arriver sur la pelouse puisque ses coéquipiers l'ont attendu 1, 2 minutes, 3 minutes. Et puis finalement, il est apparu. Enfin, et tout de suite, direction la pelouse. Et ils sont actuellement, les Français, en train de s'entraîner. Le crack du PSG n'a pas l'air perturbé par l'agitation qui règne autour de son avenir. On l'a vu esquisser un petit sourire. Le champion du monde est pleinement concentré sur sa reprise avec l'équipe de France, ce qu'a confirmé il y a quelques minutes en conférence de presse le capitaine Hugo Lloris.
Kylian est professionnel, et même très professionnel par rapport à ce qu'il a montré depuis le début de la saison avec le PSG. Il y a beaucoup d'agitation médiatique autour de lui et c'est normal, mais cette situation, elle appartient au club concerné et à lui-même. Il fait la part des choses, il est là pour représenter l'équipe de France et à l'image de son début de saison avec le PSG, il est là avec le sourire, avec l'envie de donner le meilleur de lui pour aider l'équipe de France.
Les négociations n'ont pu aboutir entre le PSG et le Real Madrid, mais aucune confirmation officielle n'a été diffusée. Jusqu'à ce soir minuit, il faut donc rester prudent, même si Kylian Mbappé, qui s'entraîne, on le rappelle en ce moment à Strasbourg, a toutes les chances de poursuivre son aventure parisienne. Quant à Antoine Griezmann, qui serait dans le viseur de son ancien club, l'Atlético de Madrid, le Mâconnais est lui aussi présent sur la pelouse, très détendu. On l'a vu sourire et parler avec Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Et puis dernière information, N'Golo Kanté ne participera pas au match de demain face à la Bosnie. Il a une douleur à la cheville. Match demain face à la Bosnie qui se jouera à guichet fermé devant 22 000 spectateurs.
Merci Cyril de la Morinerie en direct du stade de la Méno à Strasbourg. La météo, Marlène Duret. Demain, c'est tout simplement la plus belle journée de la semaine.
Oui, il faudra en profiter. Alors, comme souvent ces derniers jours, les plaques de grisaille pourront venir gâcher le décor. En tout cas, en matinée, ce sera le cas dans le nord de la Bretagne jusqu'aux Ardennes en passant par la Normandie, la partie nord de l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Alors, c'est assez hétérogène. dans toutes ces régions parce que les nuages peuvent être bas par endroits et donc gris, puis à d'autres, le soleil sera déjà au rendez-vous. Dans l'après-midi, cette zone va se limiter simplement aux côtes de la Manche et au Nord-Pas-de-Calais. A priori, plus de grisailles, sauf peut-être vers le Nord-Pas-de-Calais, malheureusement, partout ailleurs. Donc une belle journée, toujours un risque d'averse dans les Alpes et notamment sur le Mercantour. Sur les Pyrénées aussi, on va surveiller ces nuages qui nous viennent d'Espagne. Et déjà dès la mi-journée, eh bien, on pourrait avoir quelques petits orages comme ça sur le relief, plutôt sur la partie ouest. Et puis le temps va aller comme ça en se dégradant dans le sud-ouest pour la journée de jeudi. Vendredi, c'est carrément toute la moitié sud qui va être concernée par cette tendance orageuse. On va d'ailleurs surveiller la Corse. Hein. C'est là où les orages risquent d'être vraiment actifs du côté des températures. Alors aujourd'hui, en moyenne, elles étaient de saison pour clore un mois doux, plutôt frais. Et demain, elles resteront estivales. Il fera en général 19 à 25 degrés sur la moitié nord, avec 24 en Touraine, 24 également à Reims, à Paris, jusqu'à 26 à Rochefort, un petit peu plus au sud. Notez 27 à Périgueux. Et puis on attend les 26 à 31 de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen, avec 26 à Perpignan et Bayonne, 30 à Cavaillon dans le Vaucluse et jusqu'à 31 à Toulouse.
Merci beaucoup Marlène Duret. Merci Alexandre Lemaire. On vous retrouve à 20h.
Merci. Pour l'info.